m'appelle Andréanne Dufour-Bouchard, je suis nutritionniste et chef de projet pour l'organisme d'expertise sur l'image corporelle Équilibre. Bienvenue à ce 10e épisode du balado Au-delà du miroir, réflexion sur l'image corporelle. Aujourd'hui, on va parler de diversité corporelle, comment faire pour la normaliser, la valoriser et comment tout le monde peut y contribuer à sa façon. La diversité corporelle est encore trop peu représentée dans les médias, dans les secteurs de la mode, de la publicité, des arts ou encore sur les réseaux sociaux. Le fait que la minceur soit encore surreprésentée et très valorisée, ça entretient la pression de se conformer à ces standards irréalistes-là de la société et ça peut amener les gens à adopter des comportements de contrôle du poids malsains ou affecter négativement leur estime. Selon un sondage léger pour le compte d'Équilibre mené auprès de 1803 Québécois et Québécoises âgés de 14 ans et plus en 2023, 76% sont d'accord avec le fait que les standards de beauté véhiculés dans les médias et sur les réseaux sociaux sont irréalistes, mais 41% ressentent de la pression pour ressembler à ces standards et 21% affirment que les standards de beauté les font douter de leur valeur comme personne. Heureusement, on observe de plus en plus d'initiatives qui abordent, représentent et valorisent la diversité corporelle. On avait envie de vous en présenter quelques-unes aujourd'hui pour souligner leur travail et aussi pour vous inspirer et vous donner envie de contribuer au mouvement à votre façon. Elles sont d'ailleurs finalistes du prix Équilibre 2024, un prix remis par Équilibre pour mettre en lumière et féliciter les initiatives qui valorisent la diversité corporelle. Ça me fait vraiment plaisir de vous présenter les 5 personnes derrière ces initiatives aujourd'hui. Alors, Edith Bernier, autrice du livre « Grandir sans grossophobie » paru aux éditions Précaré, Jessica Brodeur pour les contenus de son compte Instagram « Jess Brodfit », Marion Desjardins pour l'exposition « Gros, grosse », Camille Forquerio, derrière la marque de vêtements Mimi & Auguste, et Carmen Rachitanu, réalisatrice de la série web « Poignée d'amour » produite par Urbania. Alors, je suis vraiment contente de pouvoir discuter avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci.
Merci à toi.
Merci pour cette belle opportunité.
Alors, j'aimerais ça d'abord qu'on parle un peu plus de vos initiatives et de ce qui vous a motivé à les mettre en œuvre. On aborde de plus en plus la difficulté qu'ont les personnes grosses à trouver des vêtements à leur taille dans les magasins réguliers. Camille, avec votre marque de vêtements Mimi & Auguste, on comprend que la diversité dans votre compagnie va au-delà d'une offre de taille inclusive. Vous avez aussi fait le choix de faire porter les vêtements non pas par des mannequins professionnels, mais parce que vous nommez des vrais corps qui sont des gens de votre entourage. Peux-tu nous dire pourquoi c'est important pour vous?
Bien, en fait, au départ, ça s'est fait un peu... Naturellement, je pense qu'on avait parce que nous, on œuvre principalement avec les maillots de bain. Donc, on avait quand même la demande pour des tailles, des tailles plus, puis plus de tailles. Puis, en même temps, nous, tu sais, on voulait vraiment comme naturellement offrir plus de tailles parce qu'on trouvait que c'était normal, puis que c'était... Mm-hmm. Tout le monde devait être inclus dans surtout pour des maillots de bain. C'est assez difficile, puis c'est assez compliqué pour certaines personnes de se trouver des maillots de bain ou juste d'aller essayer des maillots de bain. Donc, on voulait rendre ça plus confortable, plus naturel, puis plus inclusif, là, justement. Donc, ça s'est fait quand même naturellement, puis... Au final, on s'est retrouvés à créer une campagne qui s'appelle Bibimi, puis avec... de nos clients, de notre entourage, du bouche à oreille, toutes sortes de filles qui ont appliqué à ça pour pouvoir poser pour nos maillots de bain. Donc, on s'est retrouvés avec une super bande de données de filles de toutes les tailles, dans le fond. Puis, c'est avec ça qu'on a commencé à utiliser justement des filles de tout genre pour poser pour nos maillots de bain, puis que ça se retrouve sur notre site web, sur les visuels, sur nos réseaux sociaux, etc. Donc, ça s'est fait un peu naturellement, comme ça.
Mais c'est super intéressant, surtout des mannequins qui sont des vraies personnes. On dirait que ça aide aussi à se sentir reconnue, à avoir les petits défauts naturels, puis à normaliser un peu tout ça aussi.
Exactement, tu sais, c'est pas nécessairement non plus une question de taille, c'est aussi, tu sais, une question de tu sais, des mamans qui ont des vergetures au niveau du ventre, des personnes qui ont des boutons sur le corps ou qui ont... Tu sais, de montrer un peu tout ça, on trouvait vraiment que c'était quelque chose d'important, en fait, à faire.
Oui, pour décomplexer les gens, parce que c'est
exactement.
Juste normal, en fait. Hein?
Exactement, oui.
Et on parle aussi de l'importance de valoriser, évidemment, tous les corps. Marion t'a mis sur pied une exposition dans laquelle t'as non seulement mis en lumière la beauté de personnes grosses, mais t'as aussi voulu parler de la stigmatisation à l'égard du poids et de ses impacts. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de démarrer un projet comme ça?
Ouais, en fait, je dirais que c'était vraiment naturel, puis aussi un désir de comme rester dans, si on veut, dans mes valeurs, puis ce que je pouvais pas vraiment faire avec mon métier de photographe là, à temps plein. On dirait que ça arrive tellement pas souvent que je peux représenter des gens de diversité, ce que je trouve vraiment comme dommage là. On dirait que c'est vraiment venu de ça. Moi, je suis ici aussi du milieu de la mode. Puis je trouvais justement que le milieu de la mode ne me représentait pas, donc j'ai comme quitté ce milieu-là. Puis j'ai voulu justement représenter des personnes grosses, puis faire un projet avec ça, puis le montrer le plus possible, parce que plus qu'on voit des photos de personnes grosses, plus qu'on les accepte. Mm-hmm. Comme... Ouais. Fait que c'est vraiment comme ça que l'idée est venue.
C'est vraiment une belle exposition. Les photos sont magnifiques aussi.
Merci.
Et les sujets.
Oui.
Édith, tu travailles depuis longtemps à faire de l'éducation et de la sensibilisation sur la grossophobie, entre autres avec ton site internet grossophobie.ca, ton livre Grosse et puis et tes conférences dans les écoles. Ton dernier livre, Grandir sans grossophobie, s'adresse davantage aux parents, aux intervenants et professionnels de la santé qui gravitent autour des jeunes. Pourquoi est-ce que c'était important pour toi de cibler davantage ce public-là?
Bien, c'était un petit peu la suite logique des choses, en fait, après Grosse et puis, parce que il y a beaucoup de parents qui me rencontraient des profs dans les écoles qui me disaient, ouais, mais comment qu'on démarre tout ça? Comment on les prend à la source, les jeunes? Comment on peut commencer à s'assurer de créer des environnements qui sont sains au niveau de l'image corporelle pour les jeunes? Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, OK, il faut qu'on recule d'une coche. Il faut qu'on commence, il faut qu'on les prenne au berceau. Et littéralement au berceau. Mm. Et même, je commence à parler de grossophobie, même au niveau dans le livre de la maternité. Donc, quand les femmes sont encore enceintes avant même qu'elles accouchent, de tous les défis que ça représente. Et c'est de là, en fait, vraiment que ça vient des adultes qui savent justement que je donne des conférences dans les écoles, puis qui disent, OK, nous, comment on peut continuer ça à la maison? Comment on peut poursuivre ces efforts-là à la maison? Comment on peut créer des environnements sains, que ce soit dans le sport que nos jeunes pratiquent, dans les activités, les différentes activités que les enfants pratiquent, pour s'assurer que tout ce qu'on essaye de mettre aussi en place à la maison, tout ce qu'ils essayent de mettre en place dans les écoles quand il y a des initiatives à ce niveau-là, continue et fasse que tous les milieux ou le maximum de milieux possibles que les jeunes fréquentent soient justement empreints de respect au niveau de la diversité corporelle et ils soient exempts de grossophobie.
Que le message soit cohérent partout, finalement.
Oui, bien, c'est ça, pour que le même message se suive d'un endroit à l'autre, que les règles de respect, que les règles d'ouverture par rapport au corps, par rapport à la différence, demeurent à peu près les mêmes. Il peut y avoir des petites variations, mais en général, je pense qu'il n'y a pas 10 000 façons d'exprimer la tolérance puis le respect de l'autre.
Mm-hmm. Bien, merci pour cette initiative-là. Et des fois, de prendre conscience de l'influence qu'on peut avoir sans s'en rendre compte, des fois, ou de notre rôle, bien, ça peut aider justement à poser certains gestes ou des fois retenir certains commentaires qui sortent un peu naturellement par réflexe dans la société. Carmen, tu as réalisé la série Poignée d'amour, produite par Urbania. Les 5 épisodes ont pour but de normaliser les corps gros et de sensibiliser les gens aux conséquences de la stigmatisation à l'égard du poids, particulièrement à l'adolescence. Peux-tu nous dire qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir produire une série sur ce sujet et pourquoi c'était important pour toi de contribuer à l'acceptation de la diversité corporelle chez les jeunes?
Ben en fait, j'ai choisi ce sujet-là parce que moi-même, je suis grosse depuis ma naissance. J'ai grandi grosse, puis je me voyais pas dans aucun média, dans aucune émission, dans aucun magazine cool de ce monde. Puis je voulais contribuer à ça, tu sais, créer un peu une série que moi, j'aurais aimé avoir quand j'étais jeune. Je travaillais chez Urbania à l'époque. J'avais eu l'idée depuis longtemps dans ma tête qu'on essayait de la faire produire à l'externe, puis depuis des années, puis ça fonctionnait pas parce que c'est pas... tous les grands distributeurs qui veulent faire des séries sur la grossophobie. Mm-hmm. Puis je parlais avec Phil Lamont d'Urbania, puis il m'a dit « Hey, dans vie, tu devrais vraiment réaliser ce que tu aurais envie d'écouter. » Puis j'ai réalisé ce que j'avais envie d'écouter. J'ai fait une série sur la grossophobie pour les jeunes, mais c'est vraiment un hommage à moi quand j'étais ado. Tu sais, c'est recréé dans une chambre d'ado qui ressemblait un peu à la mienne. C'est porté par une jeune qui s'appelle Rosalie Moreau, qui s'affirme comme une personne grosse, qui se sent bien dans son corps. Puis les sujets, ben c'est vraiment des sujets dont j'aurais aimé avoir les réponses. Mm-hmm. Tu sais, on parle de c'est quoi la grossophobie, c'est un mot que j'ai entendu très tard dans ma vie. On parle de l'intimité quand on est un corps gros, on parle de comment ça se passe pour les hommes, comment on peut être un allié pour tous les gens qui ont des amis qui disent encore des choses qui sont comme indiscrètes. Mm-hmm. Fait que je me suis vraiment gâtée dans des sujets que j'aurais aimé avoir plus jeune. Puis ça, c'est vraiment... c'était super spécial, les tournages, parce que j'étais toute seule avec les personnes. Fait que c'était vraiment des conversations entre personnes grosses, super intimes. Puis c'est ça. Donc, c'était... Le désir, c'était, oui, pour les jeunes, mais c'est grand public, dans le sens que ça peut autant aider quelqu'un qui est une personne grosse qui n'entend jamais quelqu'un d'autre penser comme elle, autant que ça peut être pour quelqu'un qui sait pas que je peux pas aller magasiner dans un centre d'achat puis trouver quelque chose qui me fait, là. Donc, c'est vraiment dédié à tous.
Pour ouvrir un petit peu les yeux sur des éléments qu'on vit pas nécessairement quand on a un corps qui est un peu plus dans les standards, entre guillemets. Vraiment intéressant. Jessica, t'es connue sous le nom de Jess Broadfit sur ton compte Instagram, où t'encourages les gens à remettre en question le modèle unique de beauté, à accepter leur corps comme il est et à bouger pour le plaisir et les bienfaits que ça procure plutôt que pour des raisons esthétiques uniquement. Qu'est-ce qui t'a poussée à vouloir parler d'acceptation de la diversité corporelle sur ton compte Instagram?
Ça a surtout débuté quand j'ai commencé mon rétablissement de troubles alimentaires. On s'entend qu'avant ça, j'ai contribué à la culture des diètes avec le monde du fitness, mes changements corporels. Puis, dans mon rétablissement, de dire haut et fort, j'ai des troubles alimentaires, puis je veux m'en sortir. Puis ça a débuté comme ça, tout simplement. Je voulais juste le dire, le partager, puis le crier haut et fort, finalement. Puis, à travers ce cheminement-là, j'ai commencé à travailler sur mon image corporelle pour qu'elle devienne un peu plus positive, ce qui est un travail immense quand on se sort de troubles alimentaires puis des standards de beauté. Puis ça a été dans mon propre cheminement, finalement, de mettre en lumière mon propre corps qui changeait, l'acceptation qui devait venir avec tout ça, que ce soit de faire des zooms de certaines parties de mon corps, de vergetures, de défauts, entre guillemets, qu'on dit qu'on a des défauts, finalement, mais ça fait partie toute de nos corps, que je me suis rendu compte que ça faisait du bien autour de moi, ça me faisait du bien à moi, totalement. Puis en partageant un peu ce que je vivais à travers les changements corporels que je vivais, ben je me suis rendu compte que ça l'inspirait des personnes au fil du temps. Puis c'est à travers tout ça, finalement, que tout le monde me suivit à travers mon propre cheminement, puis d'évoluer à travers ça.
Super intéressant. Puis c'est vrai, tu parles de défaut, mais aussi spontanément, c'est le terme qui m'est venu tantôt, mais tu sais, je pense qu'on devrait apprendre à juste trouver que c'est une caractéristique, c'est mais vrai. C'est des choses comme ça à déconstruire. Puis je pense que toutes les initiatives y contribuent chacune à leur façon. Des projets comme les vôtres, ça aide justement plusieurs personnes à se reconnaître ou à se sentir reconnues, vous l'avez dit vous-même. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un moment précis où vous avez réalisé justement l'impact de votre initiative? J'aimerais ça si tu voulais continuer là-dessus, Jessica.
Oui, bien, en fait, je m'en suis rendue... C'est long avant de m'en rendre compte de l'impact que ça l'a eu, mais c'est surtout quand j'ai commencé à recevoir des messages via ma page Instagram que ma communauté a commencé à grandir tranquillement, puis d'avoir des partages, d'avoir des confidences des gens, puis qu'ils me nomment à quel point je leur faisais du bien ou que j'avais changé peut-être une façon de penser, une façon de se voir elle-même ou tout simplement de juste aller chercher de l'aide, que les gens pouvaient voir qu'elles avaient soit des troubles alimentaires, une image corporelle qui était plus négative, puis de dire, ben je suis tannée de tout ça puis je veux aller mieux, je veux me sentir mieux, je suis tannée des standards de beauté, je suis tannée d'avoir cette pression-là de la société. Donc, c'est vraiment avec les partages des gens que je reçois encore quotidiennement. Puis à chaque fois, je le prends pas pour acquis. À chaque fois, j'en reviens pas encore de cet impact-là, puis de me dire, ben mon Dieu, j'ai fait la différence à cette personne-là, aussi petite soit-il. Puis autant que ce soit des personnes qui le vivent elles-mêmes ou pour un proche. Donc même des mamans qui me confient que là, maintenant, elles peuvent comprendre leur ado, de mettre des mots, puis aller chercher de l'aide, de comment aborder ça. C'est vraiment là que j'ai vu l'impact que ça peut donner, puis que ça fait une différence de porter ce message-là.
Et toi, Camille, avec la marque Mimi et Auguste, ça a été quoi l'impact que tu as réalisé de ton projet?
Oui, bien, un peu comme Jessica ici, c'est vraiment comme les témoignages de clientes qui nous écrivent qui nous amènent quasiment à pleurer là, quand on les lit, là, c'est incroyable. Nous, dans le cas des maillots de bain, ben c'est vraiment comme ça fait de la différence, genre d'une femme, par exemple, qui se baignait pas du tout avec ses enfants ou peu importe, juste aller à la plage puis avoir du plaisir à y aller finalement. Donc, c'est vraiment comme les témoignages qui fait qu'on réalise, puis même comme Jessica, on réalise pas tant que ça, là, tout le temps, là, ça nous reprend tout. On est tout le temps derrière notre ordi, puis tout ça, on travaille, mais genre, t'sais, d'avoir des témoignages comme ça, ça nous ramène à, un peu à la réalité, puis dire comme, OK, ça a vraiment un impact, qu'est-ce qu'on fait au quotidien. Là.
Ça redonne du sens à notre travail
ça
aussi.
Ça fait du sens, mm-hmm. Oui, c'est ça, exactement.
Justement, pour plusieurs personnes, vous êtes des sources d'inspiration. On en parle aujourd'hui pour inspirer les gens. J'étais curieuse de savoir aussi s'il y a d'autres personnes ou d'autres projets qui vous ont inspiré, vous, ou qui vous inspirent encore en ce moment. Edith, est-ce que tu as des sources d'inspiration à nous partager?
Je dois te dire, j'ai un gros woman crush pour Renée Wilkin, mm-hmm. la chanteuse québécoise, qui est d'une énergie, d'un talent, qui est hyper sympathique, qui est hyper accessible, qui donne envie de monter sur un stage et de chanter, peu importe. Bon, elle a du talent, c'est ça la différence. Elle sait chanter, mais elle n'a pas peur de mettre de l'avant le corps qu'elle a, de mettre de l'avant les courbes qu'elle a, peu importe si elles sont parfaites ou pas aux yeux des gens. Elle n'a pas peur d'aller se mettre en jeu, de se mettre en danger. Et ça, je trouve ça d'une inspiration totale. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi Guylaine Guy. Comment ne pas aimer Guylaine, qui est d'un courage autant au niveau de toutes ses activités par rapport à l'autisme de ses fils, mais aussi par rapport à toutes ses activités sur l'acceptation corporelle, surtout chez des femmes qui sont un petit peu plus vieilles, qui ont vécu pendant encore plus longtemps que chez les plus jeunes cette pression-là de devoir rester mince, de devoir retourner à ton corps pré-accouchement, de devoir retourner à la grosseur que tu avais dans ta robe de mariée, des choses comme ça. Donc, moi, c'est vraiment les deux personnes qui me parlent, il y en a plein d'autres, mais je veux dire, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs en Europe, mais je dirais qu'ici au Québec, gardez un œil ouvert pour Renée et Renée Wilkin et Guylaine Guy, ce sont deux excellentes représentantes de la cause.
Vraiment. Et toi, Carmen, qui sont tes sources d'inspiration?
Il y en a plusieurs, mais surtout les autres personnes de la communauté grosse. T'sais, on a un groupe privé qui s'appelle The Fat Squad où les gens vont publier des questions comme « Savez-vous s'il y a des raquettes qui peuvent soutenir mon poids? » T'sais, ça fait tellement du bien, c'est tellement inspirant de voir d'autres gens avoir les mêmes struggles que toi, puis d'oser les nommer, que c'est comme à travers cette petite communauté-là que je pense que je me retrouve le plus. Mm-hmm. Sinon, la première fois que j'ai entendu le mot grossophobie, ça venait de Gabrielle Lisa Collard, ouais. Le 10 octobre. Donc pour moi, c'est une grande inspiration, puis c'est la personne qui m'a beaucoup aidée à m'affirmer dans mon corps. Puis sinon, dans Poignée d'amour, la série, tout le casting, c'est les gens que j'ai suivis sur les réseaux sociaux qui sont très connus ou moins, mais c'était des gens que je voyais dans mon feed, puis c'est vraiment grâce à eux que j'ai comme appris à m'aimer parce que je les voyais avoir un regard doux sur leur corps. Mm-hmm. Fait que c'est tous les gens qui sont dans la série, comme Vanessa Duchel, Nadia Trache-Montagne, Emmanuel Larousse ici, c'est tous des gens que je voyais dans mon feed, puis c'est tellement important de continuer à faire ce contenu-là pour aider les autres à avoir un regard doux sur leur corps, que c'est eux qui m'ont inspirée principalement.
Mmh, vraiment, c'est important ce rôle-là de modèle. Plus on voit des gens qui sont bien, plus c'est inspirant pour d'autres aussi, puis plus c'est accepté par les autres qui ne vivent pas ces considérations-là, mais qui voient aussi que c'est normal d'être bien dans notre peau, peu importe le type de corps. Mmh. Et maintenant, ça ne doit pas être toujours évident de savoir par où commencer justement quand on veut se lancer dans un nouveau projet. Des fois, ça peut faire peur aussi, même si c'est motivant en même temps. Marion, toi, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a un projet en tête pour valoriser la diversité corporelle, mais qui hésiterait à se lancer?
Je dirais en fait que je vois juste pas pourquoi hésiter. Il n'y a rien qui peut être négatif là-dedans. C'est juste du positif qu'il y a à retirer là, de cette expérience-là. C'est sûr que je dirais de vraiment s'informer là, sur le sujet avant de se lancer. T'sais, admettons que c'est comme moi, je suis une personne grosse, fait que je connaissais le sujet des personnes grosses et ce qui retouche à ça. Mais fait que je dirais de se lancer, mais de vraiment s'informer et de rencontrer aussi des gens qui sont de ces personnes marginalisées-là. Puis de vraiment ça serait vraiment ça surtout. Mais de vraiment pas hésiter, là, en fait. Là.
Mais de ne pas présumer, parce que des fois, on a des angles morts qu'on ne réalise pas, d'où l'importance justement de consulter les gens qui vivent la situation qu'on veut aborder.
Exactement, oui, c'est ça.
Merci pour vos conseils. Justement, quand on regarde les initiatives qui se multiplient dans différents milieux pour valoriser la diversité corporelle, c'est encourageant, ça montre que c'est de plus en plus important. Mais en même temps, la norme, ça reste encore la minceur qui est très surreprésentée. Il y a du travail à faire. J'aimerais savoir un peu, selon vous, qu'est-ce qui peut être fait dans différents secteurs, justement, pour essayer de continuer à faire avancer les choses et pour que la diversité corporelle devienne normale, finalement. Donc, Camille, dans le secteur de la mode, des vêtements, qu'est-ce que tu dirais, toi?
Oui, bien, je pense que, tu sais, c'est sûr, la mode, il y a encore beaucoup de travail à faire, là. Mm-hmm. C'est quelque chose. Je pense que, tu sais, il y a un travail à faire au niveau de... En tout cas, moi, ma vision de ça, tu sais, d'avoir, par exemple, une section de taille dite standard, puis une section de taille plus. Nous, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est vraiment comme ramener tout ça ensemble, puis dire que, comme, ben, ça, c'est les tailles qu'on mm-hmm. a, puis... Il n'y a pas de section de taille plus. C'est pas parce que t'es une taille plus qu'il faut que t'ailles dans cette section-là, dans ton petit coin pour magasiner, tu sais. Fait que, dans le fond, je pense qu'à ce niveau-là, je pense qu'il y a beaucoup de boutiques qui soit y offrent juste pas un grand éventail de tailles ou c'est vraiment comme une petite section restreinte avec quelques modèles de vêtements. Il n'y a pas beaucoup de choix, en fait. C'est surtout ça, là, je pense, le problème. Puis je pense que c'est ça... Il y a tellement de travail à faire que c'est dur de pointer le doigt sur quelque chose en particulier, mais je pense que ça, principalement, ça serait comme mon point principalement.
Mm-hmm. Ouais. Merci. Et Carmen, dans le secteur des médias, qu'est-ce qu'il y aurait à faire?
Je m'excuse à l'avance.
C'est dur d'être succinct, hein?
Je m'excuse à l'avance parce que j'ai une longue liste d'idées pour le secteur des médias, mais... Premièrement, je veux juste le nommer, là, qu'en ce moment, il y a une grande crise médiatique au Québec. On les voit de plus en plus, les médias fermés à tour à tour. Donc, je dirais de continuer d'exister puis de continuer à faire mm-hmm. du contenu. C'est tellement important. Puis ensuite, ben, de faire du contenu avec la diversité corporelle parce qu'il n'y en a pas assez. Puis de vouloir le faire, tu sais, de ne pas attendre que quelqu'un vienne à nous, vienne à des médias pour faire des projets. Tu sais, comme moi, mon projet, il n'est pas arrivé sur un plateau d'argent. J'ai pendant longtemps essayé de le faire produire, pendant longtemps essayé de trouver des idées. Finalement, Urbania m'a donné une carte blanche, mais tu sais, on l'a fait avec beaucoup de travail. Puis de... Fait que c'est de... pour les grands médias qui peuvent se le permettre, tu sais, d'aller chercher ces initiatives-là, mm-hmm. pas attendre qu'ils arrivent vers nous. Puis d'avoir envie de le faire, de créer cet espace-là. Puis ben se demander si on le fait aussi pour les bonnes raisons. T'sais, est-ce qu'on le fait pour cocher une case de diversité corporelle? Est-ce qu'on le fait pour devenir viral? Parce que oui, des fois, il y a des gens qui vont publier des articles avec des photos de personnes grosses, puis ça va susciter plein de réactions. Mais c'est ça. Faut se demander si on le fait pour les bonnes raisons. Puis, faut aussi s'assurer de bien représenter les personnes grosses parce que si tu, juste pour propager des stéréotypes de paresse ou de malbouffe ou de gens qui sont pas capables d'être en amour. Puis aussi, faut pas oublier qu'il y a un grand spectre. Tu sais, souvent, on va voir des femmes rondes ou des tailles 16, tu sais, mais ça va jusqu'à 26, 28. Tu sais, faut voir le spectre de la grosseur. C'est mm-hmm. super important. On le voit pas assez, ça, je pense. Puis, ben aussi, tu sais, d'avoir quelqu'un dans l'équipe qui fait partie de la diversité corporelle, mm-hmm. ça, je pense que c'est très important, tu sais, ou ne serait-ce que quelqu'un qui fait de la consultation dans l'équipe pour ça, tu sais, pour bien accompagner la personne, pour s'assurer qu'on a traité le sujet comme il faut. Puis c'est ça. Sinon aussi, ben, surveiller les commentaires parce qu'on le voit souvent ouais. dans les articles, les gens, tu sais, il faut protéger les gens qui osent donner une voix à ça puis qui osent se mettre en scène. Donc ça vient aussi avec la modération des commentaires en ligne. Puis voilà. Sinon, tu sais, je voulais juste le rappeler qu'en ce moment, il y a la loi C-18 dans les médias qui fait qu'on peut plus avoir accès à nos médias nulle part en ligne. Par exemple, Poignée d'amour, elle n'existe pas sur les mm-hmm. réseaux sociaux. Fait que, tu sais, il y en a du contenu qui existe, c'est juste qu'il faut s'abonner aux infolettes puis contrer Meta. Donc, j'invite les gens à aller chercher l'information parce que en ce moment, sur les réseaux sociaux, il n'y a aucune information qui est filtrée par des gens qui font de la vérification de faits. Donc, c'est important de le rappeler puis de continuer à encourager nos médias.
Merci, très bon conseil. Puis moi, j'aurais envie de rajouter des fois, quand il y a des entrevues sur des sujets liés avec la grossophobie, mm-hmm. des fois, le choix d'image qui est associé à l'article n'est oui. pas toujours en cohérence avec le contenu de l'article mm-hmm. non plus. Des fois, ce n'est pas nécessairement les mêmes personnes qui choisissent les images, mm-hmm. mais d'essayer de penser aussi, de sensibiliser nos collègues qui sont peut-être moins mm-hmm. avec le choix des images. Là, c'est quelque chose aussi en tout cas, qu'on remarque souvent et qui est souvent aussi conseillé pour s'améliorer à ce niveau-là. Vraiment. Marion, dans le secteur des arts, qu'est-ce que tu aurais à nous suggérer, toi?
Oui, bien, en fait, je trouve que dans le domaine des arts, il n'y a vraiment pas de représentation tant que ça là, de personnes grosses. Je dirais vraiment de valoriser ce qui est fait. Mais en fait, on dirait que je ne sais pas comment c'est possible d'aider à ça. Mais en même temps, c'est comme mon exposition a eu une bonne couverture médiatique, puis ça, je suis super contente de ça. J'espère juste que ça continue et qu'il y ait vraiment... Il y avait Evergun qui était au MNBAC là, à Québec là, dernièrement, qui présente aussi des corps très variés. Donc, tu sais, vraiment de valoriser ce qui est fait de ces initiatives-là. Mais moi, je dirais qu'il n'y en a tellement pas beaucoup. Autant sur des artistes, personnes grosses, il n'y en a pas beaucoup. On dirait qu'on n'ose pas vraiment se mettre de l'avant. Donc, je dirais de loin. C'est vraiment... c'est vraiment dur comme amélioration, je trouve.
Mm-hmm. Puis peut-être dans les autres milieux artistiques, comme au théâtre ou autre, d'avoir à cœur aussi de représenter une certaine diversité corporelle davantage aussi dans ces milieux-là, j'imagine. Hein?
Oui, on dirait qu'on fait plus attention à ce qu'il y ait plusieurs origines, plusieurs âges, dans, en fait, dans les comédiens, tout ça. Mais on dirait que côté diversité corporelle, c'est vraiment pas quelque chose qui est très important en ce moment-là. Ou même dans les artistes musiciens et tout ça. Là. Ouais.
Merci pour ces inspirations. Et toi, Edith, dans le secteur de l'éducation, à quoi on devrait s'attaquer?
À l'attaque. Donc, je pense qu'il y a quand même déjà des efforts qui sont faits au niveau de l'éducation primaire, secondaire. Dans les codes de vie des écoles, de plus en plus, on inclut que, bon, le harcèlement, peu importe les raisons, que l'intimidation, peu importe les raisons, c'est non. Et que ce soit pour la grosseur, que ce soit pour la couleur de la peau, que ce soit pour la grandeur, la couleur des cheveux, le statut d'handicap, peu importe. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais je pense que c'est quand on est rendu dans l'éducation plus loin, par exemple, dans l'éducation post-secondaire, dans l'éducation des médecins aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de chemin à faire parce que dans les cohortes de médecins actuels, ces futurs médecins-là qui vont traiter notamment des personnes grosses, très, très peu ont eu une formation réelle, ont eu une formation active et récente et sensible sur la situation des personnes grosses. Même chose pour les professeurs d'éducation physique, par exemple. Donc, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éducation, mais pas nécessairement au niveau les plus bas à faire. Je pense que les jeunes sont déjà sensibles, ils commencent à être sensibilisés de plus en plus, entre autres à cause de des projets qui sensibilisent les jeunes, comme celui de Carmen, mais et comme les réseaux sociaux et comme, bon, ce qu'on voit un peu partout. Mais là, c'est chez les plus vieux qu'il faut faire la job, je pense, où ce qu'il faut aller. Puis chez les plus vieux qui peuvent avoir des effets incroyable sur la vie des gens.
Donc, beaucoup d'éducation à faire encore, collaboration avec les universités, la formation continue, je pense que c'est
une bonne chez toutes les professions reliées de près ou de loin au poids ou à la santé, à tous les niveaux académiques.
Absolument. Puis on a deux épisodes de balado qui abordent justement tout le lien entre la santé, les habitudes de vie, le poids. Il y a beaucoup de croyances à déconstruire, puis de simplification. C'est souvent beaucoup plus nuancé et complexe que des fois ce qu'on entend. Donc, effectivement, ça vaut la peine de se re-questionner sur ces éléments-là et de faire plus de formation continue. Et toi, Jessica, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on peut faire?
C'est sûr que les réseaux sociaux, ça va sur tous les domaines. Je pense que ça vient chercher tous les domaines qu'on vient de partager. Donc, moi, j'appuie toutes celles qui viennent de prendre parole. Mais je pense que c'est surtout... On ne mesure jamais l'impact qu'on peut avoir, aussi petit soit-il le nombre d'abonnés qu'on a, mais aussi grand la communauté d'une personne peut avoir. Mais c'est d'inclure... pour les bonnes raisons, de la diversité ou de donner parole à ces gens-là ou à des initiatives, d'être le bon allié si jamais on vit dans un corps qui est plus standardisé. Mais c'est d'un peu de démocratiser, de normaliser ce qui se passe puis de partager le message, mais pour les bonnes raisons. De ne pas le faire, je prends une photo avec une personne grosse pour montrer que j'inclus tout le monde. C'est, ça va au-delà de ça. Fait que je pense que c'est de prendre parole, de prendre parole en photo, en vidéo, puis de propager aussi, de partager ceux qui ont des initiatives, parce que les réseaux sociaux, ça a une portée. Ça peut faire du bien à certaines personnes, puis on ne sait jamais qui au bout va le voir, puis que ça peut changer un peu pour dire « je vais faire du cheminement personnel là-dessus » ou « je vais encourager une telle entreprise » versus une autre de tous les milieux, que ce soit dans le monde de la mode, des médias plus traditionnels, éducation. J'appuie vraiment tout le monde. Donc, je pense que c'est de le faire pour les bonnes raisons, de partager, puis d'y penser aussi, surtout.
Puis que ça devienne quelque chose de systématique, qu'on ne fait pas juste une fois, mais qu'on intègre vraiment dans nos valeurs, tu sais, d'entreprise ou dans nos valeurs personnelles. Oui. On vient de parler de certains obstacles, justement, dans un peu tous les domaines là, de la valorisation de la diversité corporelle. C'est sûr que des initiatives comme les vôtres, ça contribue vraiment aussi à faire changer les choses. Il y a peut-être des gens en même temps qui se disent « ouais, c'est peut-être pas à la portée de tout le monde d'écrire un livre ou de faire une série ou de faire différentes initiatives comme les vôtres. » Mais en même temps, tout le monde peut jouer un rôle, peu importe l'ampleur. Donc, j'aimerais ça que... vous nous proposiez des petits gestes que tout le monde pourrait faire individuellement pour finalement en arriver à avoir une meilleure représentation de la diversité corporelle. Donc, avez-vous une action simple que tout le monde pourrait mettre de l'avant vraiment pour commencer aussi à faire des petits pas puis savoir par où commencer, même si ce n'est pas des grandes initiatives encore?
ben, soutenir, quand c'est possible, financièrement, les initiatives. Donc, si c'est le s'abonner à quelque chose, si les gens y ont des Patreons, des choses comme ça, si les gens y ont un livre, là, je parle pour moi, mais d'acheter le livre, de s'abonner au Patreon, dans la mesure où c'est possible, évidemment, pour chacun. Mais ça, c'est déjà un début. Puis donner de la visibilité à ces projets-là. Vous l'avez aimé, le livre, parlez-en, puis parlez-en pas juste une fois. Parlez-en à quel point ça a changé votre vie. Vous avez aimé ce compte-là, dites-le. Dites pourquoi, qu'est-ce qui est bon. Il y a quelque chose qui vous énerve dans du contenu. Soyez constructif, faites du call-in, faites pas du call-out. Mm-hmm. Au lieu de juste pointer du doigt inexorablement, puis de dire toutes les critiques que vous avez à faire, essayez de prendre la personne à part. Souvent, la personne va être tellement plus réceptive, mm-hmm. puis tellement plus, va être tellement reconnaissante qu'on ait pris le temps de lui parler individuellement.
Parce que souvent, c'est fait de façon maladroite, mais sans nécessairement toujours
des mauvaises intentions. Non, l'intention est rarement mm-hmm. mauvaise, mais le résultat, des fois, peut être assez important.
D'où l'importance d'en parler en privé pour encadrer les choses. Merci beaucoup, Edith.
Ben moi, je dirais, pour quelqu'un qui a un feed très mince ou très blanc, ben c'est juste de le diversifier, de suivre mm-hmm. des gens différents, parce que c'est en voyant ces gens-là qu'on normalise tous les corps, en fait. C'est en le voyant tous les jours, parce que on n'est pas habitué d'en voir partout, de moins en moins. Donc, c'est de diversifier son feed. Puis, puis surtout avec les jeunes, c'est de reconnaître quand quelqu'un dit quelque chose au souper qui passe pas, quand un jeune a un commentaire par rapport à son corps à lui ou par rapport au corps de l'autre, de le nommer, ça, de ne pas avoir peur de le dire. Puis aussi pour les jeunes, puis pour les personnes qui sont grosses ou différentes, de se lever puis d'exister. T'sais, moi, je me suis tellement retenue longtemps à comme pas prendre de photos de moi, à pas publier, à pas parler de moi, à pas vouloir faire de projets là-dessus, mais c'est d'exister, c'est de prendre la place qui nous est due, puis ça prend une énergie de le faire, mais c'est en le faisant puis en se permettant de faire des choses comme tout le monde qu'on normalise les corps différents, en fait, là. Donc c'est vraiment, c'est ça. Faut exister puis faut avoir l'énergie de le faire, je pense.
Merci, c'est très inspirant. Et toi, Camille?
Moi, j'avais un peu dans le même sens que Carmen, j'avais le goût de ramener ça un peu à soi-même puis de se dire que parfois, tu sais, on est peut-être un peu dur avec soi-même, puis mm-hmm. que, tu sais, c'est juste d'avoir une pensée positive par rapport à son corps, ou, tu sais, de juste, je sais pas comment le formuler exactement, là, mais, tu sais, un peu de self-love, un peu, là, de juste penser que, tu sais, on est bien comme on est, finalement, puis que je sais que c'est difficile à faire, puis, tu sais, ça prend du temps, mais je pense que j'ai envie de le ramener un peu au self-love, mm-hmm. entre guillemets, puis des pensées positives. Je pense que ça peut parfois être positif.
Oui, vraiment. Puis de même, des fois, réaliser qu'on a des pensées négatives. Des fois, c'est tellement un discours qui est intérieur, qui est intégré, internalisé, qu'on s'en rend même pas compte. Donc, de prendre une petite pause pour s'observer, voir comment on pourrait avoir une vision plus positive. Je trouve que c'est un conseil très pertinent. Merci beaucoup. Et toi, Jessica, sur les réseaux sociaux?
Je pense que c'est... j'en ai un peu parlé, puis j'aborde vraiment avec les autres filles, mais c'est si nous, on n'est peut-être pas prêts à exposer de manière plus très visuelle certaines parties de notre corps. T'sais, c'est pas tout le monde là, qui est à l'aise de le faire, mais je pense que c'est au pire d'encourager, de partager ceux qui le font, parce qu'il y en a qui ont l'énergie pour le faire. Donc, c'est de donner cette voix-là, de donner cette portée-là, même si t'as 50 abonnés, puis c'est 50 membres de ta famille, mais on sait jamais la portée que ça peut avoir, puis plus les gens vont partager le contenu, plus les gens vont en parler, autant au travail que dans un souper de famille, je pense que c'est là qu'on va être plus sensibilisés, même ceux qui veulent peut-être pas se sensibiliser ou s'informer, ben des fois, on sait jamais. À un moment donné, ça fait une petite graine qui va germer, puis on fait plus attention, puis au quotidien, si on le ramène à soi, ben je pense déjà juste d'arrêter de faire des commentaires sur notre apparence physique, puis d'aller au-delà de ça. Déjà d'arrêter de faire ces commentaires-là à soi-même, nécessairement, on va arrêter de le faire envers les autres, de dire bravo pour ta perte de poids. Tu sais, déjà de le faire, ça va faire un énorme changement, puis c'est pas quelque chose qui se fait naturellement. Mm-hmm. Ça fait que c'est quand même un gros travail, mais je pense que de faire ces petites actions-là au quotidien, là, peut faire une très grande différence.
Vraiment. Je trouve que les commentaires, c'est quelque chose de très tangible, t'sais, d'avoir le réflexe de commenter autrement, autant en personne que sur les réseaux sociaux. Des fois, c'est tellement un réflexe naturel, mais de ne pas dire quelque chose, c'est vraiment aussi quelque chose qui peut aider à faire changer cette acceptation-là de la diversité corporelle. corporelle et d'essayer de développer le réflexe de commenter d'autres choses. Ça aussi, ça demande une espèce d'effort conscient de commenter les réalisations, les succès, les qualités des personnes, puis de mettre des fois des photos sur les réseaux sociaux de nous qui permettent de commenter autre chose que juste notre apparence. Donc, des fois, c'est des tout petits gestes comme ça qu'on ne réalise pas au quotidien, mais qui peuvent quand même, dans l'univers des réseaux sociaux, si tout le monde s'y met, essayer de tranquillement faire changer les choses. On sait aussi que l'activité physique, la façon de bouger, c'est souvent en lien avec le contrôle du poids, essayer de contrôler, sculpter notre corps, etc. Donc, j'aimerais ça aussi t'entendre, toi, comme tu as un côté très activité physique, qu'est-ce que tu aurais envie de donner comme conseil aux gens, soit qui sont des coachs, des entraîneurs, ou encore une fois, la façon dont les gens bougent et l'intention ou la relation avec l'activité physique. Je pense que c'est un conseil qui peut permettre aussi de faire changer les choses pour beaucoup de gens.
Oui, dans le fond, moi, je suis entraîneur majoritairement de cours de groupe, puis mon message, c'est toujours dans la bienveillance, l'inclusion de tous les corps. Pour avoir vécu un corps qui change, le mouvement n'est pas le même. Quand on a un corps mince, puis après ça, qu'on a un corps plus gros, le mouvement n'est pas le même, l'adaptation de certains mouvements. Et c'est pas premièrement tous les entraîneurs, tous les coachs ou toutes les plateformes d'entraînement et d'activité physique qui vont penser à ça. Parce que pour une personne plus standardisée, plus mince, ben c'est naturel de faire un tel mouvement, mais une personne grosse ne va pas se lever de la même manière, va avoir certaines façons de bouger où le ventre va empêcher une certaine amplitude de mouvement. Mm-hmm. Donc, je pense que c'est d'aller rejoindre des plateformes ou des coachs ou des mouvements d'activité physique qui pensent à cette diversité corporelle-là qui... Au final, c'est super commun pour tout le monde. Puis d'encourager les entreprises qui vont mettre de l'avant l'inclusion de tous les corps, qui vont penser à le nommer, à donner des options, à comprendre la réalité des autres. Puis si on ne l'a pas vécu nous-mêmes, ben c'est de s'informer en demandant aussi comment toi tu bouges pour faire tel mouvement ou de regarder certaines personnes, de prendre le temps. Moi, c'est comme ça que je le fais dans mes cours de groupe. C'est des personnes en Zoom qui sont de tous les poids, tous les tailles, tous les âges. Puis en voyant, des fois, il y a des mouvements que même moi, j'ai pas pensé à donner une telle option. Puis là, je vois mes filles qui font des alternatives par eux-mêmes. Puis je suis comme, waouh, c'est vrai, il y a telle option que vous pouvez faire si jamais. Donc, je pense que c'est de mettre de l'avant des initiatives comme ça puis de penser pourquoi on veut bouger finalement au fond de nous-mêmes.
Mm-hmm. Puis la motivation à faire l'activité physique va être beaucoup plus intéressante si c'est quelque chose qui nous fait du bien pour le long terme aussi que si c'est juste pour contrôler notre poids. Mais c'est difficile des fois de déconstruire cette association-là, mais je pense que ça vaut la peine de le faire.
Oui, exact.
Merci. Et toi, Marion, est-ce que tu aurais un conseil, une action que les gens peuvent faire au quotidien individuellement pour faire une meilleure représentation de la diversité corporelle?
Un peu comme tout le monde, là, mais c'est vraiment de suivre des comptes de personnes grosses, mais aussi des comptes comme Équilibre là, qui partagent de l'information, puis vraiment de la partager aussi, non pas juste de la lire puis de s'informer, mais vraiment de la partager pour qu'on comprenne plus là, c'est quoi la diversité corporelle, c'est quoi une personne grosse, c'est quoi les mythes sur le sujet, parce qu'il y en a tellement que je trouve ça super important de justement de pas juste le partager, puis aussi justement là, comme dans des soupers, moi... Je me retiens plus maintenant pour expliquer des trucs à chaque fois que j'entends des choses abominables sur le sujet, de juste comme l'expliquer. Puis c'est pas grave si les gens sont un peu choqués, mais au moins ils ont appris quelque chose sur le sujet. Puis ils vont peut-être penser la prochaine fois qu'ils vont en parler. Puis sinon, je dirais aussi vraiment d'encourager les entreprises qui offrent de la diversité, même si on n'est pas une personne grosse, justement, si on choisit une entreprise qui, elle, va offrir des plus grandes tailles, comme Mimi et Amor, ben c'est vraiment bien pour eux parce que, justement, surtout dans le domaine de la mode, là, c'est tellement rare. Fait que, tu sais, c'est comme... Fait qu'arrêter d'encourager, justement, des entreprises qui vont, mettons, arrêter à du X large. Tu sais, c'est complètement ridicule, là, qu'ils vont faire payer plus cher pour des grandes tailles, là. Ouais.
Merci, c'est notre pouvoir d'allier aussi, peu importe la silhouette qu'on a d'encourager ces entreprises-là. Alors, merci beaucoup pour les échanges d'aujourd'hui. C'était vraiment intéressant et j'espère que ça va avoir donné le goût à tout le monde de commencer à poser des gestes concrets parce qu'on retient qu'on peut tous et toutes faire une différence, même à petite échelle, pour contribuer au mouvement et encourager les initiatives qui valorisent la diversité corporelle. Je vous invite d'ailleurs à découvrir plus en détail les initiatives de nos invités en consultant les liens fournis dans la description de l'épisode. Si vous avez aimé les contenus abordés dans ce balado et que vous avez envie d'en apprendre plus sur tout ce qui touche à la relation avec le corps, la nourriture et l'activité physique, rendez-vous sur équilibre.ca et suivez-nous sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook à Groupe Équilibre. Merci à Virage Sonore pour l'enregistrement, le montage, le mixage et la composition musicale du balado. La présentation de ce balado est rendue possible grâce à la collaboration et à l'appui financier du gouvernement du Québec.